3 au 5 septembre s'est tenue la 4e édition du Festival Céou. Je me suis promenée dans ce tout jeune festival où le village de Concorès se transforme en un lieu de festivité durant 3 jours. Le village se retrouve paré de magnifiques ouvrages en tricot et en crochet, mais oui, les pots de fleurs, les arbres, les bancs et même une 2 chevaux sont habillés ainsi. Une décoration atypique pour un festival sympathique et familial où se retrouvent musiciens et pas que. Alors aujourd'hui, suite de ma promenade, donc j'ai rencontré Philippe Mercier, installé derrière une table remplie de livres, un écrivain très inspiré qui expose des signatures d'Amélie Nothomb, donc une autrice qu'il apprécie beaucoup. Alors le ton est donné. Puis ensuite, j'ai rencontré un des 2 musiciens du duo presque classique, Franck Marty, un musicien qui joue des instruments assez extraordinaires. Ce duo, d'ailleurs, qui aime travailler avec les plus jeunes. Ces 2 musiciens ont donc rencontré les enfants de l'école de Péry et les écoliers sont montés sur scène, et oui, avec le duo presque classique, pour entonner un air célèbre tiré de Carmen. Alors, poursuite du tour des auteurs présents sur Festival C'est Où, je suis donc avec Philippe, Philippe Mercier. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors Philippe, vous êtes donc écrivain. Alors, comment, en un mot, comment vous pourriez définir votre travail, votre écriture, enfin en un mot, en plusieurs mots? C'est possible ça ou pas?
Oh là là. C'est très compliqué.
Ouais, c'est dur.
C'est très compliqué parce que je travaille sur plein de formats, sur plein d'inspirations différentes. J'ai commencé avec un spectacle solo, ensuite j'ai glissé vers de l'écriture de pièces de théâtre qui ne sont pas encore imprimées. Et puis un jour, je me suis pris d'affection pour les nouvelles. J'aimais bien ce format-là. Et puis j'ai commencé à écrire une nouvelle, puis deux, et puis mon entourage me dit « Oh, c'est pas mal, continue !» Et puis j'ai continué. Et puis un jour j'ai écrit une nouvelle, mais la nouvelle avait beaucoup plus de corps et c'est devenu mon premier roman. Et paradoxalement, c'était dans ce qui était le dernier écrit qui a été le premier imprimé et paru. Voilà. Et puis ensuite, j'ai continué avec différentes choses qui se réfèrent quand même régulièrement au théâtre.
Ah oui, un attachement pour le théâtre. Alors moi, je me promène sur le festival, je regarde vos livres. Alors il y en a un déjà qui m'a attiré l'œil. Vous allez peut-être nous en parler, c'est l'antidictionnaire.
Oui, alors, titre complet, antidictionnaire du tout, du rien et du reste.
Ça me plaît beaucoup, ça.
Oui, alors, c'est un livre essentiel. Essentiel déjà pour moi, parce que ça m'a permis de me lâcher, mais d'une façon gigantesque, de dire tout ce que je pensais un peu sur tout, d'évoquer des souvenirs personnels, de faire des tas de choses, quoi. Alors, si je reprends la quatrième de couverture, je lis avec stupeur et stupéfaction, étonnement dirais-je, qu'il y a 50% de billets d'humeur, 50% de chroniques, 50% d'aphorismes, 50% de bouffonnerie, 50% de souvenirs et 50% d'un tas de trucs inclassables.
Alors oui, mais enfin bon, là, ça fait quand même beaucoup de 50%. Là, on est déjà à combien? À 500? À 1000? Non, je ne sais pas.
Oui, mais quand on aime, on compte pas.
Ça y est, je vous ai perturbé. Je l'ai perturbé. Non, mais c'est drôle. Oui. Alors, ça se lit comme un dictionnaire.
Oui, alors j'ai voulu garder, puisque j'avais pris le titre anti-dictionnaire, la structure d'un dictionnaire, donc c'est par ordre alphabétique, et avec des mots qui m'ont ou inspiré, ou qui me sont venus spontanément à l'esprit. Alors, y a de la table des matières, si je jette un petit coup d'œil.
Ah oui, effectivement. Oui.
Abeilles, Afrique, agriculture pour Léa, etc. Baba, bibliothèque rose et verte. Donc ça, ce sont des souvenirs. Hein. Catogan, dénonciation, délation, là on est déjà plus dans le social. Économie, alors là par contre ça marche très fort. Ficelle, fisc, galinacée, jardinage, enfin bon, c'est un univers très varié qui me touche de toute façon, ou d'une façon directe, personnelle, ou d'une façon humoristique.
Alors moi ça me fait penser, alors je ne connais pas vos ouvrages, je ne connais pas du moins cet ouvrage, ça c'est sûr je ne l'ai pas lu, hein, j'avoue, mais est-ce que ça se rapproche un petit peu, vous savez, Pierre Desproges, il a fait des dictionnaires un petit peu, voilà, drôles, enfin très drôles, est-ce que ça se rapproche de ça ou pas?
Certainement dans l'esprit quelque part, parce qu'on est forcément nourri par toutes nos lectures. Desproges a fait partie de mes lectures, comme Hugo, comme Boris Vian, comme Amélie Nothomb, dont j'ai des petits satisfaits que j'ai amenés ici.
Ah oui, vous n'avez pas vu.
Eh oui.
Vous savez qu'il tombe deux gouttes là, ça vous dérange pas? Ça va?
Non.
Ça mouille à peine. Hein.
Ça mouille à peine.
Mais bon, ça va. Donc sinon, si vous voulez bouger votre.
Non, ça ira pour l'instant.
Ah, non.
Voilà. Donc oui, on se nourrit de tas de choses. Donc forcément, inévitablement, il y a peut-être un côté Desproges qui va ressortir. Il y a peut-être un côté Coluche qui va ressortir. Il y a peut-être un Pierre Dac. Enfin tout ce qu'on voudra bien. Alors je parle surtout des humoristes parce que au départ, je suis un triste sire.
Ça se voit. Chers auditeurs, vous ne voyez pas Philippe, mais ça se voit.
Et donc, voilà, c'est un aspect que je veux toujours garder parce que je le trouve essentiel dans la vie, c'est l'humour. Mm-hmm.
Voilà. Tous vos ouvrages sont humoristiques ?
Pas forcément. Le premier, là, que j'ai imprimé, Je suis immortel, est plutôt triste. Mm-hmm. Enfin, triste.
Autobiographique ?
Non, du tout. Du tout, c'est une réflexion, un peu de la prospective. On y retrouve peut-être des choses qui se déroulent actuellement.
Mm-hmm. Ah oui, mm-hmm. Ça fait longtemps que vous l'avez écrit ?
Il y a 2 ans.
Ah oui, bon.
Avant l'arrivée de monsieur et madame Covid.
C'est ça, avant cette arrivée.
Oui, oui.
Fracassante. Il y en a un autre aussi qui m'a... C'est le petit La Fontaine. Et en bas, vous avez noté « Ébouriffé ».
Oui. Alors, je suis Lucchini, Fabrice Lucchini, un fan de La Fontaine. Mm-hmm. Et j'ai voulu lui rendre hommage en reprenant une vingtaine de ses fables, connues ou pas connues, que j'ai introduites dans un contexte complètement différent. Mm-hmm. Et j'ai gardé l'entièreté des fables et la chronologie des fables. De telle sorte qu'on suit, c'est écrit en gras dans le livre, tout ce qui est écrit en gras, ça correspond à la fable. Et si on ne lisait que les caractères gras, dans l'ordre, on aurait toute la fable. Mais là, par exemple, c'est lequel, celui-là, j'ai pris au hasard, la porte au hasard, la page au hasard.
Ah oui.
C'est le savetier et le financier. Mmh. Donc là, c'est ça se passe dans un domaine radiophonique avec un reportage. Mmh. Je sais de mémoire que le lion et le moucheron, c'est un instructeur militaire qui forme 4 crues. Il y a l'huître et les plaideurs, ce sont 2 cabinets de psy qui se répondent en parallèle. Et voilà. Et donc c'est parfois délirant. C'est le premier. Alors au départ, c'est venu d'un. C'était le corbeau et le renard. Parce que je dirigeais en Normandie une troupe de théâtre pour les gamins. Mm-hmm. Et je leur ai écrit un truc. Je leur ai dit, vous voulez que je fasse un truc sur La Fontaine? Oui, pourquoi pas. Donc je l'ai fait. Et puis le corbeau et le renard qui dure 18 vers, j'en ai fait une piécette qui dure 40 minutes. Voilà. Dans lequel on va retrouver le fromage qui pue, le corbeau, le renard forcément, un dictionnaire qui vient, on ne sait pas pourquoi, enfin bon bref, des tas d'éléments incongrus qui viennent peupler cet univers.
Est-ce qu'il y a un autre ouvrage dont vous aimeriez nous parler ?
Bah, de tous.
Oui, bien sûr.
Alors,
mais vous viendrez peut-être dans nos studios pour nous en parler.
Oh, ça sera avec un réel plaisir. Déjà tous mes textes de scène parce que je me suis commis sur scène en spectacle solo. Mm-hmm. Et dedans il y a les trois spectacles solo que j'ai montés, plus un quatrième qui n'a jamais été présenté sur scène et qui est libre. Je fais un appel à tous les acteurs, s'il y en a qui veulent faire un spectacle solo, il y en a un tout près qui les attend. Et ça serait plus dans le genre Lepage, Franck Lepage, vous savez, conférence gesticulée. Et ça reprend malheureusement bien notre situation actuelle. Mmh, ouais, ça se paraît, c'est écrit il y a quelques années. Alors donc, il y a toute la partie... Donc là, c'est ma partie personnelle, texte de scène. Là, les 4 enquêtes d'Hercule Courgette.
Et oui, voilà. Maintenant, le poireau, c'est terminé. C'est la courgette.
C'est la courgette. Alors c'est pareil, ça, d'une façon naturelle, ça a été écrit pour les gamins au départ. Et puis là, il y a 4 aventures, mais c'est une vraie histoire, drôlatique forcément, et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben, là-bas, ce sont des nouvelles, donc ça me plaît bien. Mm-hmm. Et puis, monologues de sourds, qui sont des textes à lire ou à jouer. Mm-hmm. Et à chaque fois, il y en a un qui répond à l'autre. Un exemple, le livre qui est sur la table va raconter son histoire. Deux livres qui est sur la table. Mm-hmm. Et dans le texte suivant, c'est la table qui est sous le livre qui va raconter son histoire. Ils ne peuvent pas communiquer. Ils sont complètement sourds l'un à l'autre. Ils ont des ressentis différents, mais qui se recoupent.
Il y a une question là qui me vient à l'esprit. Donc, vous êtes installé dans le Lot. Ça fait combien de temps que vous êtes installé dans le Lot ?
Alors, on y habite depuis 5 ans.
Comment vous êtes venu là, vous installer dans le Lot ?
Oh, c'est une longue question.
Alors, dans le Lot, parce que ça a commencé par la Dordogne, parce que la famille de mon épouse avait acquis une petite propriété du côté de Bouzic. Mm-hmm. Et puis, régulièrement, ils faisaient des fêtes pour faire venir la famille. Bon, au début, je ne voulais pas trop y venir. Et puis, un jour, je suis venu. Et puis, on s'est installé au camping de Saint-Pompon.
Ah,
et au
oui,
camping
Saint-Pompon.
De Saint-Pompon.
Ah, j'adore ce nom. Saint-Pompon.
Tellement c'était sympa. Et bien, on y est resté. On est venu une petite quinzaine d'années quand même de suite en vacances. Parce que pour les gamins, c'était génial. Et puis voilà. Quoi. Ouais. Forcément, on aimait le coin, forcément. Ouais. Et donc après, Gourdon, parce que c'était juste à côté. Parce qu'après, il y a aussi le côté Gourdon, il y a une gare, il y a un hôpital,
oui, voilà.
il y a
services. Il y a encore une gare, bon.
Oui, non, mais ils sont battus pour. Hein.
Ah oui, c'est ça.
Bon,
c'est pas trop. Mais bon,
et même quand on n'y habitait pas, on avait déjà acquis la maison. Et on est venu à quelques manifs quand on pouvait y être, hein, parce qu'il faut défendre ses gares. Quoi.
Bien sûr. Et oui.
Et ouais.
Et oui. Bien, et bien, très bien. Et bien, Philippe, je vous remercie beaucoup. Et j'espère que, peut-être bientôt dans nos studios.
Mais ce sera avec un réel et très grand plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Donc je suis avec Franck Marty du duo Presque Classique. Bonjour Franck.
Bonjour.
Alors moi j'aime bien dire que dans le duo Presque Classique, tout est dit, non ?
Beaucoup de choses sont dites, mais des fois les gens... on va dire que des fois les puristes du classique sont gênés par le presque, et ceux qui seraient intéressés par le presque sont gênés par le classique. Alors tout est dit, mais il faut encore convaincre.
C'est ça. Alors, donc Frédéric, qui est en train d'installer, de finir d'installer sur la scène tout le matériel. Donc, Frédéric est guitariste et il est, jamais vous dites, un orchestre à lui seul, c'est ça ?
Il remplace l'orchestre. Il a relevé les parties d'orchestre parce que le but du projet, c'était de minimaliser la musique classique, hein, la rendre à ce qu'il y a de base, un accompagnement, une mélodie. Et faire que les mélodies soient jouées par des instruments qui n'ont jamais été invités à jouer la grande musique. Mmh. Voilà, des instruments rares pour la plupart.
Alors, on va en parler de ces instruments. Vous choisissez votre répertoire, vous prenez des tubes ? Que des tubes ou pas ?
Il n'y a pas que des tubes. Après, on s'est rendu compte que les gens préfèrent entendre des pièces qu'ils connaissent. Donc, on est plutôt allé dans cette direction-là, mais on prend surtout des coups de cœur. Enfin, y a énormément de coups de cœur dans cette musique-là. Donc. Après, voilà, on réduit aussi la durée des pièces. Hein. C'est de façon populaire à voir. Comme on dit, un vieux tube des années 50, les 2 minutes 30, c'est ce qu'on vise à peu près. Sur une pièce qui, des fois, en fait 17.
Oui, vous jouez un extrait de la danse macabre, justement, mais vous ne jouez pas toute la danse macabre.
Non, on joue la partie principale, celle qui est dans l'oreille.
Oui, c'est ça, voilà. Le thème le plus connu, quoi.
Ouais.
Alors, Franck, donc toi, tu es... Je dis tu, hein.
Oui, oui.
Donc, tu es collectionneur d'instruments, entre autres, d'instruments rares, bizarres, étranges.
Pas que, pas mal d'instruments du monde j'ai eu pendant un moment, et puis sur ce projet-là, j'ai plutôt sorti les instruments qui interpellent.
À la base, tu joues de quel instrument au tout départ, quand tu as commencé ?
Au tout départ, j'ai commencé comme guitariste dans un groupe de punk, voilà. Guitare électrique à la base.
Alors comment on passe du punk au classique ?
Ben, les années, tout simplement les années, voilà, je faisais du punk quand j'avais 17 ans, puis après j'ai fait de la chanson française avec un groupe qui était beaucoup venu dans le Lot, qui s'appelait Les Croquants. Mm-hmm. J'étais dans un groupe de musique traditionnelle, rock, qui s'appelait La Varda, j'accompagne Olivia Ruiz aussi avec tout un tas d'instruments, et puis voilà, la curiosité fait qu'un jour on s'est dit, bon quand même, on n'appelle pas ça la grande musique pour rien, on y met une oreille et puis c'est le coup de cœur, quoi.
Effectivement, sur les titres d'Olivia Ruiz, on entend pas mal de scie musicale, c'est toi ?
C'est moi, oui.
Dans les enregistrements aussi, pas que sur scène ?
Peut-être pas tous, mais sur la plupart, oui. Mm-hmm.
Alors donc aujourd'hui, tu es venu avec des instruments bizarres. On va peut-être pas parler de tous. Ouais. De quel instrument t'aimerais parler ?
Bah, tu as parlé de la scie, c'est un instrument, je sais, qui plaît beaucoup. Il y a un orgue de verre qu'on s'est fabriqué nous-mêmes à partir de verre à verre. Voilà,
donc j'ai vu tout à l'heure, Franck, remplir les verres d'eau. Enfin d'eau, je ne sais pas si c'est de l'eau.
Si c'est de l'eau, oui, obligé. Oui. On a des verres à cognac, mais bon... Donc voilà, il y a ça, c'est une petite curiosité aussi. Après, la pièce maîtresse du projet, c'est le monocorde de Pousseau. C'est un instrument... Mm-hmm.
Voilà. Oui, ça m'intrigue, ça.
Voilà, il n'est pas sorti, lui, il est encore à l'abri.
Alors, il ressemble à quoi ?
C'est comme un clavier avec une seule corde qu'on joue avec un archer, une pédale au pied pour faire le vibrato. Voilà, celui-là, il est de 1893.
Ah oui.
Et ça a été fabriqué par un monsieur qui s'appelait Joseph Pousseau dans le nord de la France, à côté de Mirecourt, il y a donc bien longtemps. Et ça aurait été un instrument qui aurait pu avoir, à mon avis, beaucoup de succès, mais il est mort quasiment quand il a fini la conception finale. Puis après, il y a eu la Première Guerre et tout ça, donc l'instrument est resté. Il reste quelques pièces un peu fracassées dans des greniers.
Ouais.
Et le mien sonne plutôt bien. Un peu le son d'un violoncelle, d'un alto, avec une corde.
Dans l'album, là, on peut l'entendre dans quel titre ?
Juste dans un seul, dans la pièce. Parce qu'en fait, dans l'album, on a changé complètement les titres aussi. On a beaucoup de second degré, nous, dans le spectacle. Donc, ce second degré, on a essayé de le remettre avec des titres un peu absurdes. Ça serait dans la chanson de Willy Bad, de Gluck.
D'accord.
Tu entendras du...
Ok, d'accord. Ah si, je voulais poser une question par rapport à la vielle à roue baroque. Elle est différente de celle qu'on voit en ce moment ?
C'est une vielle plate, plus petite. Moi, c'était une vielle de femme, mais là, elle n'y est plus, là, sur le... Elle est dans le disque, mais là, je tourne un peu. Au début, je les avais tous, et puis ça faisait trop d'instruments à gérer avant de jouer, des accordages pas possibles. Donc on les a mis dans le disque, tous ceux qui ont participé à l'élaboration du projet. Mais aujourd'hui, par exemple, il y en a deux ou trois de moins, dont la vielle qui reste à la maison.
D'accord.
Il y a par contre le nickel harpa. Mmh. Et ce nickel harpa, en plus, a une histoire, vu qu'il a été fabriqué dans le Lot. Voilà.
Ah oui.
Ouais, à Concotte.
Ah bon ?
Ouais.
C'est drôle.
Donc il rentre à la maison de temps en temps quand on vient jouer dans le Lot.
Ce nickel harpa, alors j'ai regardé, il est d'origine, c'est un instrument suédois, je dis pas de bêtises.
Tout à fait.
Ouais, c'est ça.
Ouais. C'est une vielle archer suédoise avec des cordes sympathiques et un clavier à la place qui remplace le jeu au doigt sur un violon. Tessiture d'alto aussi.
Comment est né ce duo ?
Alors moi, c'est une histoire particulière, c'est que j'ai fait ma première rencontre avec la musique classique très tard en accompagnant le décès de ma grand-mère. J'ai joué tout seul dans une église du nickel harpa, justement, une pièce. Et pour cette espèce de moment suspendu, j'ai voulu le continuer. Donc j'ai commencé à travailler d'autres pièces classiques pour le lien, en fait. Mmh. Et Fredo, c'était un pote, on était de région voisine. Et on a vu des projets, on cherchait un projet un jour pour travailler ensemble. Et bon, Fred, je le connaissais plus comme un DJ, il faisait beaucoup de musique électronique, de techno, tout ça. Mais à côté de ça, c'était un excellent guitariste classique. Pas conventionnel, ce qui correspondait un peu au projet et à nos cultures communes. Et on s'est branché, ça a marché, et puis ça, de suite les gens ont adhéré quand on a commencé à jouer. Voilà. Comme je te disais, c'est à l'abri du succès, on reste dans notre petit réseau, notre petit coin, mais on voyage beaucoup. Et c'est, si on regarde, c'est pas voilà, au remplissage des salles qu'on se rend compte, mais au pourcentage de gens contents quand ils s'en vont. Donc jusque-là, on est, voilà, ça se passe bien.
J'ai regardé, vous jouez quand même pas mal, hein.
Oui, on joue beaucoup, hein. On joue beaucoup. Ouais. On joue beaucoup, ouais. Ouais. Bon, là, ça fait un petit moment qu'on a été punis, mais. Voilà. Après, on a deux formules du spectacle, une formule jeune public, celle que nous a demandé aux heures du Régine, qu'on va essayer quand même de tourner un peu tout public. Donc, c'est pas évident de faire le pont entre les deux, mais c'est deux spectacles différents. Et le spectacle jeune public a tourné pendant 2 ans avec les Jeunesses musicales de France. Donc, on était venu pas mal avoir des enfants dans le Lot aussi.
Vous aimez travailler avec le jeune public, les scolaires et le jeune public, pas que les scolaires?
Ben, les scolaires, voilà, on a fait beaucoup avec les JM France, donc c'est pas évident non plus de les amener vers le classique, et notre formule était intéressante, justement, c'est pour ça qu'on a fait ça. Après, on travaille, si ça nous arrive, d'aller dans les écoles, comme hier, à Concorès. Voilà, c'est toujours intéressant. Ouais. Bon, les enfants sont intéressés par les instruments. Ça, ils sont, voilà, ça les fait, peut-être qu'on a joué, quoi.
Comment ça se passe? Qui fait les arrangements là dans le duo? Tous les deux ou...
les choix de pièces, souvent c'est bon. Moi je pourrais dire voilà, cette pièce je la sens bien pour tel instrument, et après c'est Fred qui s'occupe du reste. Moi je lis pas, j'écris pas, moi je lis pas la musique. Donc Fred lui a cette capacité. Et puis c'est pas des pièces de guitare à la base, donc il faut faire toute la réduction d'orchestre. Hein, donc c'est lui qui se charge de tout ça Et après, voilà, on est obligé de changer les tonalités pour les adapter à l'instrument. Les tessitures ne sont pas les mêmes. Donc, il y a tout un travail. Voilà. On se répartit les rôles, mais c'est quand même c'est Fred qui fait le gros de l'arrangement. Oui.
Comment vous avez traversé ces 2 années, on va dire, difficiles? Confinement, pas confinement, je joue, je joue pas?
C'était pour le moral compliqué au bout d'un moment. Hein. Le premier, bon, allez, moi personnellement, j'ai composé un projet que j'avais en tête de compo solo, dans l'autre, mon autre amour qui est la musique folk. Le deuxième, on a fait l'album du duo. Le troisième, j'ai appris à jouer d'un autre instrument, et puis là, j'ai plus d'idées, quoi. Et puis bon, voilà, à force, c'est ce qui était le plus dur, c'est de voir disparaître les dates en fait, du calendrier, de voir un calendrier plein, et des fois, j'y moins quelques semaines, bam, ça repartit, on en repère une dizaine. Donc bon, au bout de moi, tu t'inquiètes, hein, puis tu t'emmerdes, et puis tu sais plus à quoi tu sers. Et puis là, voilà, on en rejoue, donc tout va mieux.
Ouais, et puis les concerts en vidéo, ça va 2 minutes. Hein.
Ouais, non, ça c'est. Ça, c'était les concerts en visio. On a fait un délire au début pour les gamins qui n'ont pas pu voir qui ont pas pu voir le dernier spectacle en Jeunesse musicale de France. On avait fait une petite vidéo pour les JMF. Hein, et après, on n'est pas trop rentré dans ce truc-là. Quoi.
Ouais. C'est quoi votre actualité? Alors, bah, toi, Franck.
Eh bien, il reste quelques dates là, avec le duo. Puis je pars en tournée sur un spectacle d'Olivia Ruiz qui s'appelle Bouche cousue, qui tourne à partir du 15 septembre. Voilà, dans toute la France, hein, jusqu'au mois d'avril. C'est un spectacle sur la retirade, hein, plus en rapport avec le livre qu'elle a écrit. Et en parallèle, il y a quand même quelques dates avec le duo.
Tu enseignes la musique?
Non.
Non?
Non. Je la montre aux enfants, comme on fait là. Je les intéresse. Hein. Mais après, on m'a proposé des postes, des fois, d'enseignant. Je pas le temps, on va dire, encore. Ça viendra peut-être un jour. Hein.
Peut-être.
Après, je me ferai un régal là, d'enseigner la scie musicale, qui est un instrument complètement intuitif, voilà, où il n'y a pas spécialement de règles. Voilà, ce genre d'instrument, oui, ça me plairait.
Oui, parce que finalement, tu sais jouer d'instruments, on va dire, rares quand même. Hein, il y a certains instruments. Et le transmettre?
Oui, le transmettre, oui. Ouais. Les intéresser sur les instruments, oui. Après, c'est quand même... moi, j'apprends de manière intuitive, totalement. Je ne mets jamais le doigt où il faut. Je ne mets pas le coup d'archet qu'il faut. Et si jamais je rentre dans ce délire-là, j'arrête de jouer parce que ça m'a... Voilà. C'est pour ça que ça a été dur de rentrer dans la musique classique au début, qui est pleine de codes, pleine de... Mais on a été approuvé par des gens importants de la musique classique aussi, comme Jean-François Zigel, par exemple.
Oui, vous avez été invité, non?
Oui,
sur son plateau.
À présenter le monocorde de Pousseau, justement. Ouais. Et puis il a trouvé notre façon de faire les choses, voilà, très très bien. Il y a eu des festivals, des vrais festivals de musique classique qui nous ont programmés aussi, qui nous ont donné l'aval. Donc la légitimité au début a été dure. C'était des moments de stress d'aller jouer dans ces genres d'endroits. Mais bon, maintenant on commence à se détendre. Toujours une question qui se pose avant d'y aller. Voilà. Notre circuit à nous, voilà, c'est C'est un peu, j'aime pas le classique, mais ça j'aime bien. C'est les gens qui, puis ils ont l'impression d'avoir la culture du coup quand ils nous voient, parce que mais ça je connais. Finalement, ça c'est cool. Voilà.
Bon, bah, super. Ben, merci beaucoup.
Je te remercie.
Bon concert.
Merci beaucoup. Et bravo à Régine de nous avoir invités ici.
Les paroles, c'est facile, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Prends garde à toi. Et le truc, la surprise de général. Merci. Tu les prends à la volée, hein? T'es un professionnel de la profession, toi, d'ailleurs. Donc n'ayez pas peur, on va pas faire Carmen. On va faire notre version de Carmen, comme si c'était une simple chanson populaire, accompagnée par le chœur de Concorde.
Concorde.
Ouais, je peux d'ici, excuse-moi. Le dernier mot. Bravo les enfants. Ils se sont fait beau, ils ont travaillé, ils avaient les Tibénés. Il y en a qui sont pas allés à la pêche, il y en a qui sont pas allés au foot, qui sont venus. Merci aux parents.
Et à toute l'équipe du Festival Sioux, une belle équipe de bénévoles qui m'ont reçu et qui reçoivent avec beaucoup de bonne humeur et de gentillesse. De la bonne musique et des artistes attachants. Voilà un bon cocktail. Et rendez-vous est pris pour l'année prochaine.